Le journal Belinda Bossuma.
Trois morts, deux filles enlevées et plusieurs biens de valeur pillés. Bilan des attaques des présumés combattants hutu-rwandais dans le village de Tshisaza, à près de 50 km de Bukavu au sud Kivu. Les habitants de ce coin du pays s'est déplacés déjà vers les villages voisins. Des détails dans ce journal. En Ituri, dans la province orientale, début des travaux de reconstitution des limites frontalières entre la RDC et l'Ouganda samedi dernier. Nous ferons le point à ce sujet dans ce journal avec notre confrère Sadala Chabani. Et puis nous serons au Katanga où la société civile du Katanga et un député de Lubumbashi réclament un dédommagement de la part de l'État après la destruction jeudi dernier des constructions jugées anarchiques. Mesdames et messieurs, bonjour. Nous ouvrons ce journal par la situation sécuritaire au sud Kivu. Le week-end dernier, trois personnes ont été tuées au village Chima Chamishasha dans le groupement de Nyamarunga, territoire de Kalehe au sud-ouest de Bukavu. Selon l'administrateur du territoire, c'est suite à une attaque des présumés combattants hutu-rwandais. Selon la même source, ce groupe armé a pillé du bétail et enlevé deux jeunes filles dans le village de Tshisaza à Kanyola, dans le territoire de Walungu. C'est environ 50 km au sud-ouest de Bukavu. Les détails avec Astrid Mujinga.
Selon l'administrateur du territoire de Walungu, un groupe d'assaillants, des présumés hutu-rwandais, ont attaqué le village de Tshisaza à Kanyola au milieu de la nuit du dimanche à ce lundi. Ils ont enlevé deux jeunes filles de moins de 20 ans d'une même famille. Du côté de la 10e région militaire, le colonel Nyarabaka a confirmé l'information et a annoncé que les militaires de la 11e brigade ont été lancés à leur recherche. Dans la nuit du samedi à dimanche, un autre groupe, supposé être des Rasta, a attaqué le village de Chamisasa dans le groupement de Nyawarunga, territoire de Kalehe, à 70 km au nord de Bukavu. Là, ils ont tué le chef de village, enlevé plusieurs personnes, emporté plusieurs têtes de bétail et beaucoup de biens de valeur dans la forêt, selon l'administrateur du territoire de Kalehe. D'autres sources sur place signalent l'enlèvement de 12 personnes et de la découverte de deux autres corps d'hommes adultes, en plus de celui du chef de village. Depuis Bukavu, Astrid Mujinga, Radio Okapi.
Notez que le désarmement des FDLR tel que prévu dans le communiqué de Nairobi pourrait intervenir dans les prochaines semaines. Annonce faite hier par le général Kayembe, chef d'état-major général des FARDC, devant la presse à Goma. Il répondait à la question des journalistes concernant les accords de Nairobi signés entre le Congo et le Rwanda sous la facilitation des États-Unis en novembre dernier. Ces accords prévoient le désarmement des FDLR en mars 2008. Tout est déjà planifié, a rassuré le général Kayembe. Les États-Unis augmentent à 100 millions de dollars son assistance humanitaire bilatérale en RDC pour l'année fiscale 2008. Annonce faite ce lundi par Mme Henrietta Hosman-Ford, administrateur de l'Agence des États-Unis pour le développement international USAID. Arrivé le samedi dernier à Kinshasa, le numéro 1 de USAID a visité les femmes victimes de violences sexuelles à Heil Africa Hospital à Goma. Henrietta encourage les autorités congolaises à saisir l'opportunité qu'offrent les accords de Goma pour instaurer une paix durable en RDC. Les propos de Henrietta Hosman-Ford, administrateur de l'USAID, recueilli par René Capita.
Sans progrès sur les problématiques de paix et sécurité, notamment la réforme du secteur sécuritaire et le processus de désarmement, démobilisation et réintégration, le progrès en traitant les défis de développement de la RDC est en danger. La communauté internationale doit s'assurer que l'appui à ce progrès se passe au même rythme que les investissements dans les secteurs de développement, afin d'avoir un effet durable dans l'assistance à la RDC. C'est de devenir une nation stable et sûre. Les élections présidentielles en 2006 ont marqué un pas important vers la stabilité en RDC, avec un nouveau début pour la démocratie et les citoyens congolais fortement soutenant le processus des élections. En échange, le gouvernement doit fournir des résultats au peuple, ou bien risquer de perdre la confiance des citoyens qui ont investi tant d'énergie dans le processus démocratique. Les premiers pas importants de ce processus sont pour le gouvernement de traiter les défis de base de corruption et impunité.
Notez que lors de son passage à Goma, Mme Henrietta Fore a lancé un appel aux populations du Nord Kivu pour une plus forte implication en vue du retour de la paix dans la province. Selon Henrietta, les financements pour appuyer le développement des régions affectées par différentes guerres sont disponibles. Mais l'exécution des différents projets ne pourront être possibles que si les différents belligérants soutiennent les efforts de paix déjà amorcés. Le calme est revenu à Luofu et ses environs dans le territoire de Lubero au Nord Kivu. Ce village s'était vidé de sa population estimée à environ 20 000 habitants la semaine dernière. Cela fait suite aux affrontements entre les Maïmaï du Parico et les combattants outo-rwandais des FDLR. Selon la société civile, les déplacés regagnent progressivement Luofu, mais ils ont besoin de vivre et non vivre. Étienne Moindo.
La Croix-Rouge locale parle de 10 000 personnes retournées depuis samedi dernier. Ces gens ont besoin de nourriture, des médicaments et des outils agricoles pour reprendre leurs activités champêtres, déclare M. Adolphe Paloukou, président local de la société civile. Le curé de la paroisse catholique, le père Jean-Marie Waivuta, souligne pour sa part qu'il est revenu pour célébrer les sacrements de Pâques et d'ajouter les activités scolaires n'ont pas encore repris. La plupart des enseignants, parmi lesquels des religieuses, ont fui lors des combats de lundi et mercredi dernier entre les Pareco et les rebelles rwandais des FDLR. De son côté, l'administrateur assistant de Lubero, M. Maker Sivikunuloa, demande aux déplacés de regagner leur village. Il rappelle que la 8e région militaire a fait déployer le week-end dernier ses éléments à Luofu pour sécuriser la population et ses biens. Étienne Mwindo, Butembo, Radio Okapi.
Nous vous le disions en titre, en Ituri, dans la province orientale, les travaux de reconstitution des limites frontalières entre la RDC et l'Ouganda ont débuté samedi dernier. Le coup d'envoi a été donné à Rukwandi, un îlot situé à 80 km au sud de Bunia, dans le lac Albert. Ces travaux exécutés par des experts des deux pays se font suivant le contenu des accords signés au mois de septembre 2007 par les chefs d'État de l'Ouganda et de la RDC à Ngurdoto, en Tanzanie. La durée n'a pas été déterminée. Nous avons en ligne notre confrère Sadala Chabani qui revient de Rukwandi. Bonjour Sadala.
Bonjour.
Sadala, qu'est-ce qui s'est fait réellement sur terrain?
Oui, sur terrain, les experts militaires et civils des deux pays, notamment des géographes, des cartologues, des navigateurs et des pilotes, parcourent depuis samedi plusieurs villages situés au bord du lac Albert. Hier dimanche, par exemple, ils ont été à Kolokoto, dans les territoires des Mahagi. De Rukwandi, en territoire d'Irumu, jusqu'à Nebi, district ougandais frontalier au territoire de Mahagi, il procède à la fouille des bornes laissées par les autorités coloniales belges et britanniques en 1915.
Et comment la population locale, du moins congolais, accueille-t-elle les travaux de ces experts?
Oui, particulièrement à Rukwandi, la population locale est satisfaite du fait que les experts de ces deux pays se sont engagés à l'associer dans les travaux de reconnaissance des bornes. Cependant, lors de la présentation de la délégation ougandaise samedi dernier à Rukwandi, les habitants n'ont pas bien digéré la présence d'un administrateur de cet îlot riche en pétrole, déjà nommé par le président ougandais Yoweri Museveni, conformément aux accords d'Ngurdoto.
Et pour terminer, les Congolais, eux, n'ont pas également présenté leur administrateur de Rukwandi?
Non. Pour les Congolais, cet administrateur n'est pas encore nommé. Selon un ministre provincial membre de la délégation congolaise, il y a encore des préalables qui restent avant que l'administrateur congolais soit nommé, notamment les infrastructures.
Merci beaucoup Sadala Chabani pour ces précisions. On vous retrouve dans nos prochaines éditions pour d'autres informations. Entre-temps, au Kasaï occidental, ouverture ce lundi à Kananga d'un séminaire de formation des chargés de relations publiques et du social des régions militaires de l'ensemble du pays. 52 officiers venus de toutes les provinces renforcent leur capacité d'instructeur en éducation civique et patriotique. Selon le lieutenant-colonel Georges Moukolé, formateur au service de l'éducation civique et patriotique au ministère de la Défense nationale, cette formation vise à améliorer les relations entre les FARDC et la la population. Notez que ce séminaire, qui va durer 3 semaines, clôture un programme de formation d'une année sur l'éducation civique et patriotique soutenu par le ministère de la Défense de la Belgique. Au Kasaï oriental, la route Mbujima-Ilusambo, coupée en deux depuis près de 2 semaines, le chef-lieu du district de Sankourou est difficile à atteindre par véhicule. La route s'est affaissée à la hauteur de la localité de Mutombo-Dibwe, située à plus de 150 km au nord de Mbujimaï. Conséquence, plus d'échanges commerciaux entre les deux centres de consommation. Chris Mukand.
Les témoins contactés expliquent que les fortes pluies de ces derniers jours ont accéléré la dégradation de la route Mbujimaï-Lusambo. Le point de non-retour a été atteint quand des eaux stagnantes ont provoqué l'effondrement d'une partie de la route au niveau de Mutombo-Dibwe. Ils affirment en outre que des véhicules chargés de produits divers sont bloqués depuis lors du côté de Lusambo en attendant que le passage soit rétabli. Du côté de Mbujimaï, le gérant du parking Matulu, en partance pour Lusambo, parle d'une dizaine de camions remplis de marchandises en attente d'une solution sur cette route. Malgré l'impraticabilité de cette route en saison de pluie, un important échange se fait entre la ville de Mbujimaï et la cité de Lusambo. Mbujimaï fournit à Lusambo des produits manufacturés comme habits, piles torches, savons, cigarettes, quand Lusambo inonde Mbujimaï de l'huile de palme, de maïs et de riz. Le directeur provincial de l'office de route que nous avons contacté affirme qu'il n'est pas encore saisi officiellement et qu'il attendait le rapport de la brigade de l'office de route basée dans le Sankourou pour des dispositions pratiques. Les opérateurs économiques redoutent pour très bientôt des répercussions fâcheuses sur les marchés des deux centres, Mbujimaï et Lusambo. Mbujimaï, Chris Mukand, Radio Kapi.
C'est en principe ce lundi que doivent se clôturer les états généraux des mines. Ce forum qui regroupe les opérateurs miniers, ONG et services étatiques évalue entre autres les performances du secteur minier. Le ministre de l'économie, André-Philippe Fouta, a estimé la semaine dernière que la RDC ne tirait pas profit des opportunités offertes sur le marché international. L'une des causes est le manque des industries pouvant transformer les produits miniers au pays. Au Katanga, la société civile et un député de Lubumbashi réclament un dédommagement de la part de l'État après la destruction jeudi dernier des constructions jugées anarchiques. C'est un reportage à suivre dans un instant, mais tout de suite l'actualité en plus bref. En sport, la Ligue provinciale de volley-ball de Kinshasa a démarré depuis hier dimanche son championnat pour la saison 2007-2008. En match d'ouverture joué à la place de la Voix du Peuple, les dames du Daring Club Motema Pembe ont battu celles du Canon Jili par 3-2. Tandis que chez les messieurs, c'est Force Terrestre qui était plus fort que la Police, 3-0. En page internationale, les responsables des violences politico-ethniques qui ont suivi la réélection contestée du président kényan Mwai Kibaki doivent être jugés pour regagner la confiance de la population, a estimé ce lundi l'Organisation de défense des droits de l'homme. Dans un rapport de 81 pages intitulé « Des bulletins de vote au bal, violence politique organisée et crise de gouvernance au Kenya », Human Rights Watch détaille plusieurs exemples de violences politiques planifiées à travers le pays. Autre nouvelle, les rebelles burundais des Forces nationales de libération FNL ont repris les discussions avec la médiation internationale hier en Tanzanie après avoir rencontré une délégation du gouvernement du Burundi comme il l'exigeait.
Okapi. Okapi, toutes les infos de l'ensemble du pays.
Thérèse Kankou, nous commençons par la société civile du Katanga et un député de Lubumbashi qui dénonce l'opération de démolition jeudi dernier d'une centaine de maisons, clôtures, alimentation et centres de santé considérés comme construits anarchiquement.
Les députés exigent que l'État les dédommage pour la société civile. Il faut que l'État trouve une solution avant de détruire les maisons des populations. Mais pour le maire adjoint de Lubumbashi, la population a été suffisamment sensibilisée. Paulin Munanga.
La société civile pense que les priorités sont ailleurs au Katanga. Ce n'est pas la démolition des maisons. Elle insiste sur le fait que la population n'a pas eu assez de temps et de moyens pour se préparer. Elle fustige aussi le fait que ce sont les faibles qui sont victimes dans ce genre d'opération. Pour sa part, Edo Kasongo, élu de Lubumbashi, passe de maison en maison dans les quartiers. Il encourage la population à aller en justice contre l'État congolais.
La démolition, c'est un problème qui me fait très mal. Vous connaissez vous-même comment les gens ont eu des terrains ici chez nous.
la plupart des terrains, c'est l'État qui distribue via les cadastres. Maintenant, si l'État a un projet quelconque, ils ont payé légalement, ils ont construit légalement, tout ça, il y a toute une procédure qu'il faut suivre.
Pour le maire adjoint de la ville de Lubumbashi qui a supervisé l'opération, les propriétaires des maisons détruites ont été sensibilisés pendant une année et ils n'ont pas raison de se plaindre. Paul Chamwange Tiungu.
La sensibilisation a eu lieu. Ils n'ont pas raison. Nous avons fait une procédure régulière. Ça fait au moins une année qu'ils étaient mis en demeure. L'arrêté a été signifié par voie du CIE. Le ministre des Infrastructures les a appelés lui-même devant lui. Nous, au niveau de l'hôtel de ville, il y a eu des réunions avec eux.
Les maires adjoints précisent qu'aucune victime ne sera dédommagée. Lubumbashi, Pole Munanga, Radio Okapi.
Terminons dans la province du Bandundu, Thérèse, avec cette remise le week-end dernier d'une somme de 4 750 000 francs congolais au comité local d'entretien des routes de desserte agricole du territoire de Bulungu.
Ceci entre dans le programme du gouvernement provincial de désenclaver les milieux des grandes productions agricoles. C'est le vice-gouverneur maître Vicky Mbosso qui s'est rendu sur le lieu pour émettre cet argent. Pour les comités locaux d'entretien des routes, ce geste du gouvernement va encourager les agriculteurs à produire encore plus, car les voies d'évacuation des produits vont désormais être réhabilitées.
Merci Thérèse, merci également à vous chers auditeurs. Ce journal est terminé. Bonne suite au programme sur Radio Okapi.